Español.
Bonsoir Kiara, good evening. Je suis de retour sur les antennes, vous avez deviné, c'est David qui fait tout, 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 tout. Anne-Sophie, thank you, merci, bonsoir.
Bonsoir.
Et la malade, entre autres, bah, je suis malade aussi.
Les deux malades.
Les deux malades, Virginie.
Je vais bien, merci.
Ça va?
La pêche.
Je préviens les auditeurs et les auditrices, on va peut-être tousser, éternuer, se moucher à l'antenne, on va essayer de pas faire, mais c'est
ça va être difficile.
Faut qu'il
y ait une mouchoir sur la table.
C'est d'époque,
exactement.
C'est l'hiver, il a plu beaucoup, il fait froid, on se chope des maladies, ça s'appelle la grippe ou le rhume ou la grosse, des trucs on tousse quoi. Voilà, et on sniffe. Mais bonsoir à tout le monde, bonne semaine. On est quelle date là, le 30?
On est
c'est
le 29.
Ça, 29 juillet, le 29 juillet, dimanche. On a un petit programme quand même. On va parler série télé, hein, c'est ça, Virginie? Toi, t'as une série télé que t'as vue en ligne ou quelque chose comme ça?
Ouais, c'est une série que j'ai vue sur Netflix qui s'appelle La Forêt. Enfin, c'est The Forest sur
The
Netflix.
Forest.
Ah,
vous en parlez.
Je me demandais, tiens.
Bon, bah, on va parler de ça. Je crois que c'est aussi une BD, je crois, où il y a eu une BD là-dessus. Peut-être, mais c'est peut-être autre chose. Et moi, je parlais de Calvi. En effet, je retourne de 6 semaines de vacances passées franchouillardes. Des vacances qui m'ont fait découvrir la Corse. Je ne connaissais pas, mes parents ne connaissaient pas et mes enfants ne connaissaient pas, ma femme non plus. Donc, on a tous découvert Calvi et un petit bout de la Balagne. C'est la région autour, on parle un peu de ça. Toujours des chansons. Tout le monde, on a tous choisi des chansons, je crois, hein, c'est ça?
Non, moi j'ai choisi les grosses têtes.
Ah, on va parler grosses têtes alors. Souvenirs d'enfance. Et
moi j'ai
ça.
Une request. J'ai
ah oui, t'as une request.
J'ai une request. Request.
Une demande.
Une demande, s'il vous plaît. J'ai une demande de musique que je voulais passer, que j'aime bien, qui s'appelle Christine and the Queens, que j'aime beaucoup.
Eh ben on passera ça, je suis sûr, à un moment donné. Comme on est tous malades, on s'est dit, tiens, un gros classique, c'est Je suis malade, c'est Serge Lama. Je vais mettre le son à fond sur l'ordi et je vais passer ça dans 2 secondes. Quand ça passe, on me fait que oui.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. C'est jamais où, et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps. Et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. avait du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade. C'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes sens, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade.
Voilà, nous sommes tous malades, complètement malades.
T'es vraiment malade.
Oui, malade, malade. Voilà, bah, c'était Serge Lama, un grand classique quand même. Hein. C'est très lyrique, ça fait longtemps que je n'avais pas écouté. Hein. Oui, c'est de la grande musique presque hein, derrière, hein. C'est du violon, il y avait un gros orchestre hein, à mon avis. Bon, je ne sais pas. Qui veut parler en premier parce que je peux parler, mais d'ailleurs je ne fais que ça.
Non, donc Virginie se mouche, donc j'attaque. Ah,
tu sais toi qui... Alors, Anso nous a préparé...
Tu veux que je coupe ton micro, Virginie ou...
Non, ça va, je vais me reculer.
Ok. Ça fait 2 semaines que j'écoute des rediffs en podcast des Grosses Têtes. Alors, les Grosses Têtes, c'est quand même anthologie. Moi, j'avoue que je n'écoutais pas trop à l'époque... Parce qu'on parle d'une époque quand même, l'époque des Grosses Têtes.
80-90, ouais. C'est ouais. Pas
ah mais non. Alors attends, les Grosses Têtes, ça a duré combien de temps
pour au moins 40 ans parce que c'est recommencé maintenant. Bouffard s'est fait...
37 ans. Voilà. 37 ans de Grosses Têtes. De 77 à 2014. Ouais.
Mais les grosses années, c'est tous les années 80, toutes les années 90.
Voilà.
Après,
fin des années 70.
Un peu de montée-descente dans les années 2000.
Alors,
c'est revenu fort.
En 2000, Philippe Bouvard a essayé de prendre sa retraite des Grosses Têtes et ils ont mis De Chavannes qui a duré quelques semaines je crois parce que malheureusement c'est descendu, ça a dégringolé et donc Bouvard est revenu jusqu'en 2014 donc revenu, il a re-signé pour 14 ans en fait.
Mais il s'était fait un peu virer aussi, il y avait des
je ne sais pas trop, oui. C'était pas très bien expliqué dans les articles que j'ai lus il est parti, il est revenu.
Voilà.
Et maintenant depuis 2014 l'émission a un peu changé, le format a un peu changé. Mais le titre est resté et ça a été repris par Laurent Ruquier.
Qui n'est pas trop mal. Tout le monde dit que c'est assez bien.
Je ne l'ai pas écouté. Moi, j'écoute en fait les vieilles émissions.
Donc
Philippe Bouvard. Donc les vieilles émissions de 77.
Donc sûrement Jean-Yann, Jacques Martin et tout ce qui va bien.
Alors les Grosses Têtes, ça a été créé par Philippe Bouvard et Jacques Martin. Qui tous les deux se complimentaient sur leur connaissance culturelle et à quel point ils étaient
fantastiques.
Voilà. Ouais. Et ils se sont dit, mais pourquoi on ne ferait pas une émission ? Et du coup, ils ont lancé leur première émission le 1er avril 77 en se disant comme ça, si ça ne marche pas, on dirait que c'était un canular. Et donc, voilà, et ça a marché, et ça a pris, et ça a été énorme. Donc, c'était les Grosses Têtes, c'est un jeu de questions qui passait de 16h à 18h sur RTL, et qui était rediffusé aussi dans la nuit.
Est-ce qu'on pouvait gagner de l'argent dès le début, la question à 50 francs, je crois que c'était,
oui, c'est ça. Donc,
dès le début ou pas ?
L'émission a évolué généralement, mais il y a toujours eu les questions des auditeurs. Donc les auditeurs pouvaient envoyer des questions. Alors à l'époque, ils postaient des questions par la poste à RTL. Et on reconnaît en fait quand c'est une vraie question d'un auditeur et quand c'est une fausse qui a été créée par... par les techniciens parce qu'ils n'avaient pas assez de questions tout simplement faire des émissions toute la journée. Et donc quand c'était des questions par les techniciens ou l'équipe, les noms et les lieux faisaient des jeux de mots. Donc par exemple, on avait Madame Boileau d'Evian. Vous en aviez une avant,
c'était quoi?
Madame Belle-Père de Loche.
Voilà, Madame Belle-Père de Loche. Voilà. Donc ça, on sait que ces questions-là, c'était fait par
c'était
l'équipe.
Un peu truqué.
Et les autres, donc.
Moi, ça me fait rire, hein. C'est très bon enfant et ça me fait beaucoup rire.
C'est très bon enfant. C'est très, les années 80 surtout. Et un peu de 90, il y a des blagues qui pourraient plus passer maintenant parce
que
c'est très sexiste. Jacques Martin était très sexiste.
Homophobe.
Et puis les femmes, bon, c'est des femmes. Il y avait un canular du genre pendant des années, ils parlaient de. Je crois qu'ils avaient monté un club de l'interdiction de porter de shorts pour les femmes. Il fallait que les femmes portent soit des pantalons, soit des jupes. Surtout, c'était des mini-jupes. Mais sinon, fallait. Donc, Jean-Yann, Jacques Martin, d'autres avaient dit non, on va fonder un club. C'est impossible, les shorts sur les femmes, c'est horrible. Donc, ils ont fondé le club des anti-shorts.
Alors, oui, ils étaient. Alors, c'est vrai que quand on écoute les blagues aujourd'hui, là, il y a des trucs qui passent plus, quoi. C'est vrai que c'était bon enfant, mais ça passe plus quand même, quoi. Il y a des blagues complètement sexistes, ça ferait plus rire du tout aujourd'hui. Il y a des blagues vraiment homophobes. Ça passe pas non plus. Et puis quand même un truc, c'est que c'était une émission complètement avec que des invités blancs.
Bah oui,
principalement blancs. Donc
middle age, comme on dit. La cinquantaine, 40, 50, 60 et plus, voilà. Blanc, masculin. Au départ, ils ont bougé un petit peu.
Alors,
avec le temps, mais pas beaucoup.
La première femme, c'était Sophie Desmarais, qui a commencé fin 77. Mais il n'y a pas eu beaucoup de femmes quand même, quoi. Mais ils essayaient d'en avoir.
À part Claude Sarraute, qui est passée au moins 15 ans.
Et Alice Sapritch, qui venait aussi souvent, très souvent.
Ouais. Et celle qui avait un cheveu sur la langue, là.
Ah oui.
Si, mais ça ne me revient pas.
Alors j'ai une liste, on pourra rechercher plus aussi.
Mais il y avait des marins aussi, donc de Kersauzon il y avait des nobles, il y avait un peu de tout, il y avait des...
Alors donc bien entendu Philippe Bouvard, Jacques Martin, et après on sort des vieux noms de la vieille que j'avais pas entendu depuis des années, Jean-Yann, Jean Lefebvre, qui apparemment ne répondait à jamais aucune question, mais qui faisait rire tout le monde. Roger Pierre, Jacques Balutin. Balutin, je n'avais pas...
Des comiques français,
quoi. Je n'avais pas pensé à lui depuis des années. Thierry Leluron, bien sûr. Olivier de Kersauzon, qui a fait des années. Gérard Jugnot, Patrick Sébastien, mais aussi des gens comme Sim.
Oui.
Ah, j'avais vu, c'est pareil.
Si, je m'en rappelle.
Du tout pensé à lui depuis. Carlos, bien entendu. Roger Carrel, Philippe Castelli, Alice Sapritch, Léon Zitrone, je ne savais pas qu'il avait participé beaucoup aussi.
Ils avaient des invités aussi.
Macha Merrill. C'est pas Macha Merrill que tu cherchais?
Non, avec le sans-attache, c'est
le cheveu sur l'ombre.
Non, Macha Merrill, elle avait une voix très suave.
Oui.
Alors, ils ont eu aussi des gens de l'Académie française, comme Jean d'Ormesson.
Oui, parce qu'il y avait des gens qui répondaient vraiment aux questions, qui étaient assez intéressants. Et puis, il y avait des gens qui étaient là pour déconner.
Oui, oui.
Et puis, des gens qui faisaient les deux.
Il y avait Pierre Belmar, Amanda Lear, Jacques Balutin.
Amanda Lear.
Très longtemps aussi. Ouais,
Guy Montagnier.
Oui.
Et puis bon, il y en a d'autres, mais on va essayer de trouver le nom de cette femme, parce que j'ai écouté une émission avec elle. Ah bon? Parce que j'ai écouté une émission avec elle il y a pas longtemps. Et alors il y avait aussi Michel Galabru, Marianne James, j'arrive pas trop à la resituer, mais bon. Et alors donc apparemment le problème avec De Chavannes, c'est que non seulement ses invités n'étaient pas aussi éduqués et n'arrivaient pas à répondre aux grandes questions comme la première équipe le faisait, mais c'est aussi que
Bouvard c'est une institution,
très éduqué et très intelligent, et il connaissait lui-même les réponses à beaucoup de questions, donc il pouvait donner des indices. Parce que c'était le truc.
Et puis
alors
aussi,
que De Chavannes ne pouvait pas.
Son savoir culturel au niveau de la littérature, parce qu'il y avait beaucoup de littérature ou de dictons. C'est-à-dire que quand il blaguait, il reprenait aussi beaucoup de des écrivains français, du Molière, du Courteline. Donc il s'amusait aussi beaucoup à donner de la du phrasé français. Donc si t'as pas ça derrière toi, c'est difficile. Aussi, est-ce que quelles années s'est passée la télé? Parce qu'au bout de dans les années 90, fin 90, je crois, ils ont commencé ou début 90, ils ont commencé. Bouvard a mis la télé, les grosses têtes aussi.
Alors je sais pas, j'ai trouvé des émissions spéciales sur YouTube, mais je sais pas exactement quand est-ce qu'ils ont commencé à faire de la télé ou pas. Ou ils ont fêté la 2500e grosse tête en 85 sur Antenne 2.
D'accord.
Et en 92, la 5000e grosse tête sur TF1. Et de 92 à 97, l'émission était diffusée sur TF1.
Voilà, donc quand 50 télé quand même.
Toutes les années 90. Et c'était généralement le samedi soir. Ouais.
C'était un peu, bizarrement, c'était un peu moins drôle à la télé. C'était plus drôle à la radio, je ne sais pas pourquoi, mais...
Mais il y a ce truc, je sais pas, j'ai remarqué ça aussi, où ça se fait beaucoup maintenant, la radio, ils mettent les caméras dans les studios, et en fait ça devient une émission de télé. Ils avaient commencé, je sais pas si tu te souviens, avec
Comme le JT maintenant, oui.
Non, mais ils avaient commencé même avant avec Fun TV, avec Fun Radio, ils avaient mis une caméra, mais ça se trouvait sur Internet, et puis après, bon, il y a eu des... Non, c'était pas sur Internet, c'était sur le câble.
Oui.
Et puis après, c'est devenu un peu populaire. Et là, je le vois aussi à la télé le matin, ici, en Nouvelle-Zélande.
Oui, ils ont fait pareil, ouais.
Et en fait, je trouve ça un peu... je vois pas l'intérêt, personnellement, parce que je trouve que ça devient...
moins vivant, presque. Mais, c'est un peu figé. Au niveau télé, c'est figé.
Mais oui, puis le... Je sais pas, c'est cette espèce de truc, c'est la radio, justement, ce qui fait le côté excitant de la radio, c'est qu'on voit pas et qu'on doit s'imaginer. Enfin, en tout cas, moi, ça a été toujours ma connexion avec la radio, c'est que justement, on voit pas ce qui se passe dans le studio. Et d'ailleurs, peut-être heureusement, parce que tout le monde verrait les gestes qu'on fait en l'air pour se communiquer.
D'après ce que je crois, il y a des sketchs avec Sim qui se déplace, il fait les cons. Et à la radio, on n'entend que ce qu'on nous dit tous les jours de pas faire. Tous les jours, on nous dit à la radio, surtout ne tapez pas sur les meubles, ne touchez pas au micro. Et t'entends Sim qui fait blablabla et ça touche partout, ça tombe. Et c'est à la radio. Donc à la télé, ça ferait pas pareil.
Ça devient trop poliché. Ouais, ça devient trop lisse. Voilà, en fait, c'est ça qui me dérange un peu maintenant avec ce côté. Radio, télé, ça devient trop
aussi,
lisse.
Parce que la radio, techniquement, t'es devant ton micro, donc t'es assis, donc tu bouges pas beaucoup. Quand on voit les nouvelles, c'est Radio Nouvelle-Zélande qui fait ça assez bien, mais pas super bien. C'est les nouvelles de 5 heures, donc c'est Campbell qui l'a repris il y a un an. Et donc lui passe à la télé sur la chaîne numéro 50 à la télé, mais donc c'est Radio Nouvelle-Zélande. À la radio, ça passe, mais si on le regarde, eh ben, on voit Campbell devant son micro. Qui bouge pas, qui fait rien et tout ça. Oui, tu veux ton petit tube. Voilà.
Alors, tu n'avais pas arrêté l'ordi. Voilà, c'est ça, le truc. Et puis aussi, moi, ce que j'aime, c'est qu'en écoutant les grosses têtes, en les écoutant à la radio, j'essaie de me souvenir. Enfin, je reconnais des voix, mais sans forcément me souvenir. Je revois Léon Zitrone, enfin je réentends Léon Zitrone ou Roger Carrel, mais j'arrive plus à me souvenir de leur tête, quoi. Donc je sais pas si je les reconnaîtrais.
Il y avait pas Peter Ustinov aussi dans quelques émissions?
Ah ça, je sais pas, il était pas sur la liste. Alors donc je vous en ai sélectionné une. Donc les grosses têtes, vous pouvez les réécouter sur RTL, sur
donc
podcast.
Ils ont des podcasts sur RTL, voilà. Des années 80.
Des années 80, ils repassent. Voilà. Alors ils les ont coupés en morceaux, en tronçons d'une demi-heure. Donc c'est parfait, moi c'est pile poil le temps pour aller au boulot.
De toute façon, il fallait un peu parce qu'il y avait la pub, les infos, l'émission, elle a été enregistrée. Toi qui es allé, Virginie, t'as dit que t'étais passé en studio. Et ils enregistrent trois émissions en un jour, hein, c'est ça? Deux par
émission.
Soirée, c'est ça.
Ouais, les invités, moi j'ai vu qu'une émission. Oui. Mais par contre, ça prenait... Non, il le faisait finalement bien, parce que j'ai vu d'autres émissions de télé, pareil, qu'ils enregistraient. Non, de mémoire, les grosses têtes, c'était assez... C'était enchaîné. Il n'y avait pas de coupure, non.
Non, mais les coupures, c'est avec la radio. Donc, ils coupaient expressément pour les pubs sur RTL. Et puis, couper à. Donc, c'est de 16h à 18h, à 17h pour les nouvelles. Donc
la raison pour laquelle ils ont coupé maintenant, c'est parce que l'émission, elle était faite en plusieurs morceaux. Donc, il y avait la partie des questions. Il y avait une partie actualité où ils commentaient l'actualité. Donc, cette partie-là, ils l'ont complètement enlevée. Et puis, il y avait une partie aussi culture qui avait un peu disparu à la fin des années 80, dans les années 90, où là, ils parlaient plus de littérature, de choses comme ça. Pas forcément sous un format de questions, mais donc ça aussi, ça a été enlevé. Donc, ils ont gardé en fait la demi-heure des questions et réponses et des canulars et des blagues et des choses comme ça. Donc, je vous en ai sélectionné une qui est celle du 27 juillet 88. Comme ça m'intriguait de réécouter Sim, celle-là, elle a Sim. Voilà. Alors, ça marche pas parce que le câble.
Mais on est toujours en air.
Donc on recommence.
C'est juillet 1988. Cette émission accueillait Evelyne Leclerc, Jean Dutour, Sim, Claude Tarot et Philippe Dubard.
Question de Monsieur Carrel de Chevilly-la-Rue. Qu'est-ce que Jonathan Swift avait proposé que l'on fasse des enfants dans son ouvrage intitulé Modeste projet pour empêcher les enfants des pauvres d'être une charge pour leurs parents.
Les manger.
Qu'on les mange, oui.
Les manger. Bonne réponse de Sim. Mais attendez.
J'avais là.
Il proposait quand même avant.
De les accommoder.
C'est-à-dire, il disait qu'il fallait les transformer en pâté et en charcuterie diverses.
Bien sûr, c'est très bon un bébé.
Il faisait ses livres très sérieusement, Swift. Évidemment, quand il proposait quelque chose, il proposait comme ça en l'air.
C'était le père spirituel de Jean-Christophe Averty, avec les bébés éprouvettes.
Oui, la première
moulinette. Les bébés ou la moulinette.
Oui, oui. Et c'est très, très humain, parce que moi, par exemple, les miens, j'avais toujours envie de les dévorer. Hein.
C'est très femme, c'est très mère, c'est très maman.
Je les léchais, je les mordillais, je disais absolument comme un. Je les aurais mangés, vraiment.
J'aurais aimé être votre enfant.
Oh, mais il n'est pas trop tard.
Swift a donné la maxime politique idéale. Il a dit « Je dois me plaindre que les cartes sont mal battues jusqu'à ce que j'ai un beau jeu. »
Ah oui, c'est exactement ça. Alors la petite Émilie, monsieur Dutour.
Tout à l'heure.
Qu'après l'entracte.
Personne ne peut la chanter à part moi, alors je choisirai mon moment. Je ferai la petite Émilie si vous me faites le train.
Oh oui.
Du chantage alors.
Oui, du chantage. Non, pas du chantage, un marché.
Est-ce que vous préférez le train, que je vous fasse le train ou que je vous fasse un bébé?
Justement, je pensais au bébé, mais je crois que je préfère le train.
Mais il peut vous faire le bébé dans le train.
Bon, vous faites le train.
Allez,
vas-y.
Vous enchaînez sur Émilie.
Non, j'enchaînerai pas. Je la ferai appeler après Émilie.
Ah bah non.
Vas-y.
Je vais vous chauffer une salle et vous allez la laisser tomber.
Je la réchaufferai.
Vous la réchaufferez.
Oui, ne t'inquiétez pas.
Alors, le train, rien que pour vous. Oui. Qu'est-ce que vous voulez, une première ou une seconde classe?
Je veux tout.
Un TGV, voulez-vous le TGV? J'ai jamais fait le TGV.
Ah,
c'est nouveau, ça. Hein.
Voilà, vas-y.
Parce qu'aux grosses têtes, souvent, on m'a entendu faire le train, un train, un tortillard, mais là, c'est le TGV. Avec les différences de sonorité que le train fait entendre à chaque fois qu'il passe sur les superstructures. Vous savez que quand on est dans un wagon de chemin de fer, on entend des choses différentes. Hein. Et ça passe pas dans un tunnel, hein, le TGV, non?
Sûrement.
Bon, alors vous allez l'entendre passer.
Il n'a pas encore démoli les.
Alors attention, là, avec le concours de mes amis techniciens, Bernard Desfous, qui me met un peu des coups, attention.
Voilà, c'était Sim, les grosses têtes, RTL.
Sim qui faisait le train quand même.
T'as dit, hein, c'est ça
juillet 88, ouais.
Bravo. Et pendant que Virginie se mouche, mais Virginie a assisté à quelques émissions des grosses têtes, tu nous racontes ?
Oui, moi j'ai dû y aller quand je pense, je devais avoir, c'était l'année, c'était pas l'année de mon bac, c'était en première, je pense.
T'es toute seule comme une grande ou tes parents
sont ? Non, j'étais allée avec l'école parce que j'avais fait un...
Ah oui.
J'ai fait un bac G, moi, donc comme j'ai fait un bac G, fallait qu'on aille
c'est
voir
quoi,
les
trucs. C'est quoi un bac G ?
C'était un...
C'est gestion, non ?
Non, gestion, c'était... Non, bah, G3, ça dépend, c'est G1, G2, G3. C'était communication et... C'était quoi ? Communication commerciale, un truc comme ça. Donc, bref, très axé sur les moyens de communication, radio étant un moyen de communication. Donc, on était allé voir comment ça se passait sur un studio de radio. Donc, on était allé voir les grosses têtes... Donc je dis ça devait être dans les années 80, de 97, un truc comme ça. Et donc il y avait Christine Bravo en invitée. Donc ça se passait. Il y avait quand même pas mal de gens hein, dans la salle. Je sais plus de mémoire, il devait y avoir au moins 1000 personnes dans la salle. Hein. C'était quand même assez grand.
Ah, c'est gros quand même. Hein.
Oui, le public était quand même assez gros. Ce qui était assez surprenant d'ailleurs, parce que tu t'imagines pas.
Non, on s'imagine un petit studio.
Non, pas du tout, non. C'était vraiment très
c'était
grand.
Toujours, comme c'était live et qu'on entend les gens rire et applaudir, je sais qu'il y avait des gens, mais je savais pas que c'était 1000 personnes.
Ah, ouais, non, c'était assez un studio, comme on aurait dit une émission de télé, ouais. Et donc voilà, donc l'invité d'honneur était au milieu devant Philippe Bouvard sur un siège en arc de cercle. Après il y avait les invités sur le côté, il y avait je me souviens définitivement, il y avait Isabelle Mergault à ce moment-là. Et puis bref, non, c'était assez intéressant. Ce que j'avais j'avais trouvé intéressant, c'est que quand ils n'étaient pas en live, Christine Bravo s'était retournée et puis clairement elle s'avoinait avec Philippe Bouvard. Quoi. Il y avait quelque chose qui se passait pas bien entre eux ce jour-là, je sais pas, elle était énervée, enfin elle était assez agitée, assez énervée et puis c'était assez intéressant ce qu'on se disait. Dès qu'ils revenaient live, tout se passait très très bien, il n'y avait pas d'animosité, mais et en fait voilà, donc ça se passe comme ça aussi ici. Hein ?
Ah oui, oui. Dès qu'il y a une musique, on s'arrache les cheveux.
Voilà, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Donc non, c'était assez intéressant et ça, justement, c'est ce que je disais avec ce truc maintenant où ça fait très lisse quand on a des caméras dans les studios de radio. C'est finalement ça change un peu, je pense, la dynamique. Où tout le monde s'entend très bien, ils sont sur les nanas, ils sont maquillés, les 5 heures du matin, ils sont fraîches comme des gardons. Et en fait, on n'y croit pas, j'ai vraiment l'impression. Enfin, clairement, hein, je trouve que ça change un peu la dynamique. Où je pense que justement, l'intérêt de la radio, c'est quand il se passe quelque chose, quand la musique se joue, c'est là où finalement il y a beaucoup d'interactions entre. Le présentateur, l'animateur, etc. Et puis, justement, ça donne une dynamique assez particulière, je pense, à l'émission. Et voilà, donc c'est juste un aparté, mais je pense que ça change un peu. Et c'était assez symptomatique, je pense, de la radio et de la dynamique de radio. Donc voilà, ça, devant tout le monde, et quand c'était live, tout le monde s'entendait très bien. Et puis, hop, c'était off. Et il y avait quand même pas mal de trucs. Mais toi, David, tu disais que ça se passait comme ça aussi. Tes parents étaient allés voir.
Mais par contre, non, avec Kersauzon, quand il se battait avec quelques-uns des invités, je ne me rappelle plus lesquels, que c'était surtout lui qui avait envie de se battre. Et puis mes parents disaient à l'époque qu'il était bel homme, puis il était fort, il était marin, donc il était un peu musclé. Par rapport à d'autres qui étaient comédiens, bah si, mais il est grelé comme un... Enfin bon. Et donc disait, oui, était sur le plateau et t'as les cacahuètes qui se balancent. Après, ils vont presque au coup de poing pendant que l'émission se passe. Quoi.
Bah, de Kersauzon, il se prend des gros coups de gueule avec Jacques Martin et puis avec aussi Joff. Tu sais, celui qui faisait des émissions sur la malbouffe hein.
Ah oui, oui,
oui.
Koff.
Oui. Jean-Pierre Koff. Koff. Oui. Donc, ils se prennent de gueule.
J'imagine.
Grave. Mais aussi, oui, on parlait que dans les années 90, ils ont un petit peu changé le format aussi. Et c'est ce que tu disais, Virginie, dans l'émission à laquelle tu as été. Ils avaient un invité d'honneur. Donc, quand on réécoute des podcasts, ils sont un petit peu tout mélangés. Et donc, quelquefois, ils ont un invité d'honneur. Et donc, ils commencent par une interview de l'invité d'honneur. ce qui a remplacé en fait la rubrique culturelle. Et donc là, il faisait venir plein de gens, et puis les gens s'en prenaient plein la tête, quoi. Mais de façon très humoristique.
Oui. Ouais, ça fait toujours du bien de rire un coup, quand même.
Mais ouais, les grosses têtes. Et comme tu disais aussi hors antenne, David, c'est vrai qu'il picolait aussi pas mal. Oui. Mais il s'en cache pas, hein, parce que j'ai écouté une émission cette semaine où on entend les verres clinquer.
Oui,
et puis il y a une des participantes qui est en train de boire un truc et il y a quelqu'un à côté d'elle qui fait mais qu'est-ce que tu bois là, c'est de l'eau ou... Elle fait non, mais c'est pas de l'eau, c'est un. Alors elle a sorti le nom, j'ai pas retenu le nom, mais apparemment Bouvard lui avait donné la recette et tu mets du vin blanc et de la limonade et ça
oui,
saoule moins.
Spritzer.
Non, c'est pas le mot qu'elle a utilisé. Bah oui, moi aussi je connais ça, mais elle a utilisé un autre nom.
Les mots des années 80, quoi.
Oui, voilà. Et elle dit ça saoule moins, donc je peux en boire plus. Et
c'est vrai d'ailleurs.
Voilà. Donc c'était un peu le truc,
je suis sûr que le taux de sucre au bout d'un moment avec la limonade, ça fait le double effet.
Oui, oui.
Mais à la tête.
Et puis collait pendant toute l'émission, quoi.
Voilà, c'est ça.
Ouais, mais je pense qu'ils étaient un peu plus libres. Enfin, c'est les années 80-90, c'était beaucoup plus libéral.
Est-ce que tu as un deuxième extrait, puis on passe à un prochain article?
Ah, non, j'ai préparé une chanson, en fait, comme Virginie nous a demandé.
Ah oui, c'est vrai.
Christine and the Queen.
Eh ben, on va passer ça.
Je me suis dit, on va se faire une petite transition. Elle a sorti un single, là, récemment, cette année. Donc, je me suis dit, est-ce que tu veux qu'on passe une des chansons de ce single?
Non, moi j'allais plutôt vers l'intensité.
Alors laquelle tu voulais, toi?
C'était Tilted que j'aime bien, moi.
Ah je l'ai.
Donc
okay.
On va prendre Tilted.
Et voilà, c'est parti pour Tilted.
Help it if we're touching. I am.
choix, Virginie?
Oui, pop. C'est bien.
Ouais, très bien.
Très bien. C'était, je crois que c'était le single de son premier album. On n'est pas tellement.
Dans les quelles années,
mais...
ça? Il n'y a pas longtemps.
J'ai 5 ans, 2 ans ou 12 ans.
2 ans, peut-être, oui.
2 ans.
Quelque chose comme ça.
Donc, on appelle Christine and the Queens.
Oui.
Tilted. Merci. On va passer côté télé. Donc tu t'es tapé une série Netflix qui s'appelle La Forêt.
C'est
dans
ça.
Le texte chez les Franchouillards que tu viens de nous dire avant. Qu'on peut trouver sur le côté international de Netflix. C'est ça. Si on
c'est
branche
ça.
En Nouvelle-Zélande.
Alors.
On va sur le côté international et on y trouve.
Oui, si tu vas dans la section française, mais de toute façon si tu fais en recherche, tu vas trouver. Hein, ça s'appelle The Forest. En anglais, La Forêt, voilà. Donc c'est un drame policier. C'est une série Netflix. Il y a que une saison d'ailleurs, mais on ne sait jamais. Hein, parce que, à regarder comment ça se passe en ce moment avec les saisons, on arrive à en créer des deuxièmes et des troisièmes assez facilement. Donc c'est une série de 2017. C'est assez court. Il y a que 6 épisodes.
Ah oui, donc c'est facile à. Non, parce que j'allais juste petit aparté. Oui. Le seul truc que j'ai du mal, c'est le côté overdose et addiction. Comme on dit en français, overdose c'est overdose, mais addiction. Parce que le problème avec tout ce qui est en ligne, quand je me suis commencé une ou deux séries il y a un an, six mois, un an, et à 3h du matin, je suis toujours en train de regarder l'épisode numéro 9, et puis je sais qu'il y en a 5 saisons, et donc je suis à la première saison, épisode 9, à 3h du mat, je vais me coucher, le lendemain je recommence, ou le surlendemain, ou quand j'ai du temps. Et donc, au bout d'un moment, ma femme commence à m'appeler à 2h du mat, me dit, tu sais qu'il est 2h, puis ça fait 5 nuits d'affilée que tu te tapes. Et c'est ça, moi, c'est mon problème. Donc, en fait, j'ai arrêté parce que je me dis, c'est un peu dangereux, en fait. Parce que les séries sont presque finies ou complètes.
Mais je pense que c'est un peu fait comme ça. Mais si, ben, en même temps, ça fait un peu l'effet... Je ne sais pas si vous vous souvenez du bouquin de Dan Brown quand il avait sorti le premier
Da
Vinci Code. Ouais, c'était un peu le même effet avec les épisodes. C'était écrit d'une certaine manière que...
C'est difficile à lâcher, mais bon.
Voilà, une fois que tu as fini le chapitre, tu as envie de partir sur l'autre. Et comme c'était blanc-noir sur les histoires, c'était très, très addictif. Oui. Alors que l'histoire en elle-même n'était pas extraordinaire. Mais c'est pareil que les
séries. C'est pas de la littérature. Hein.
Non, c'est pas de la littérature. Non, on est bien d'accord.
Le suspense, c'était fort.
Mais oui, et donc les séries sont basées sur le même principe. Il faut que tu continues à regarder, forcément.
Et puis on sait qu'elles sont là. J'aime bien les séries quand j'aime bien une série. Mais le fait de regarder à la télé, t'attends la semaine prochaine, quoi.
C'est vrai.
Et quelque part, et ça dure qu'une heure ou 50 minutes plus les pubs. Mais de l'avoir là comme un robinet, c'est un peu. Moi, j'ai du mal, quoi.
Pour ça que ça crée des générations qui ne sont pas très très patientes, puisque nous l'habitude d'attendre une semaine pour avoir l'épisode suivant de la série de l'été. Ou l'épisode suivant de Beverly Hills.
L'année, Dallas, c'était toute l'année, hein, dans les années.
Dallas, c'était tous les soirs.
En plus.
Non, pas Dallas.
Non, Dallas, c'est pas les feux de l'amour. Hein.
Dallas, c'était tous les soirs.
Non, pas Dallas. Non, pas Dallas. C'était une fois par semaine le week-end.
Ouais. C'est vrai?
Non, pas Dallas.
Ouais, genre vendredi soir.
Tu penses à.
Les feux de l'amour ou des trucs comme ça, ouais, les épisodes.
Santa Barbara.
Santa Barbara.
Ah oui, Santa Barbara.
Ça c'est tous les jours.
Ça a été la première, le premier soap opera qui a pris la France, dont la France s'est amourachée, quoi.
Santa Barbara. Ça. Moi j'ai jamais. Vous avez regardé Santa Barbara?
Un petit peu. Je suis vieux, moi.
C'est ma grand-mère.
Ça passait quand on rentrait de l'école, genre à 6h du soir, un truc comme Moi, j'avais autre chose à foutre.
Il y avait un épisode à midi, hein. C'était pour les femmes, femmes au foyer.
La journée, je sais pas.
Bah oui, c'était...
Je sais que mes grands-parents ou ma mère, c'était celle du midi. Mais je sais pas si c'est les feux de l'amour ou Santa Barbara.
Il y avait d'autres trucs le midi, c'était plus... Ouais.
Mais j'ai jamais regardé, moi, les feux de l'amour. Ça a jamais été...
Bon, alors, La Forêt.
Oui, alors,
on revient à La Forêt.
6 épisodes, donc, c'est bien, c'est court. Donc, et c'est fini. C'est 6 et c'est fini.
Pour l'instant, que je te dis, maintenant, on arrive à faire des séries 15 sur. D'ailleurs, on pourrait parler de Dallas une autre fois et une autre émission, mais parce qu'ils ont un peu fait ça aussi. Mm-hmm. Donc, l'histoire, ça se passe dans les Ardennes. Et la jeune Jennifer, âgée de 16 ans, disparaît. Et elle est retrouvée morte dans la forêt aux alentours du village de Montfaucon. Donc elle a deux amies, Océane et Maya, Et donc, Océane et Maya, elles sont persuadées que tout va bien et qu'elle va revenir. Puis finalement, elle est retrouvée morte. Et donc, c'est la lieutenant Musso. Elle s'appelle Virginie Musso. Et c'est le seul mot en français que mon mari a capté, d'ailleurs.
Musso.
Ah, mais c'est bien, il reconnaît ton prénom. Voilà, c'est pas c'est mal. Ça.
Ah, mais je comprends. Ah oui, t'as compris le prénom. c'est bien, chérie. Progrès. Et donc, elle est en charge de l'investigation. Maya, c'est sa fille. Et puis, donc, il y a un nouveau capitaine aussi qui arrive et qui vient travailler dans ce village. Et donc, ils vont donc faire leur investigation et découvrir des histoires très, très sordides qui se passent dans le village. Donc, c'est des histoires de meurtres, d'enfants abandonnés, adoptés, de liaisons, de prostitution. Donc, je disais, c'est 6 épisodes, donc c'est assez rapide. Et ça, c'est l'avantage, c'est que ça tient en haleine et que c'est vous pouvez le regarder sur un week-end. Il y a pas mal d'épaisseur, il y a pas mal de niveaux. Il y a entre 5 et 6 histoires à peu près en même temps. Ce qui fait finalement l'intérêt de cette série, c'est qu'il y a pas mal d'histoires. Des fois, c'est un peu creux.
Donc, c'est bien écrit. Il y a un travail d'écriture derrière.
Oui, en fait, ils ont fait ça assez dense sur une période assez courte. Moi, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Des fois, il n'y a rien. Tu regardes, il y a une histoire et c'est tellement creux. Là, ça tient en haleine quand même. On se dit. Et c'est vrai que j'ai regardé pas mal de commentaires sur des gens qui voulaient série. Ils disaient c'est vrai que c'est assez difficile de savoir qui est le meurtrier. Moi, j'ai réussi à capter peut-être au 4e épisode où j'ai commencé à avoir des doutes. Donc, c'est finalement pas mal.
Donc, c'est bien fait.
Ouais, et puis, c'est court, mais c'est tellement bien écrit finalement qu'on se dit. On sent pas que c'est 10 épisodes. Ça donne,
c'est basé sur un livre, une BD, non. Quelque chose. Donc c'est un scénario télé et c'est Netflix France qui a produit ça. C'est Netflix.
Non,
ou c'est
alors c'est pas mal de au niveau de la production. Je sais plus. Il y en a à peu près. Il y a 4 studios, je crois, d'accord, qui sont ensemble. Il y en a un qui s'appelle le studio que j'ai noté. Pardon.
C'est pas trop grave. Et sinon, c'est le même réalisateur sur les 6 épisodes ou c'est des gens différents qui changent?
Non, c'est le même. Donc, c'est Karma Film. C'est un studio britannique qui est basé à Birmingham. Ça, c'est le studio principal. Et en fait, c'est juste une parallèle. Ils sont sur le point où ils ont sorti un film sur la vie de Josephine Baker qui s'appelle Dear Josephine. Donc, si ça vous intéresse, regardez. Ça, j'ai vu une bande-annonce. Ça avait l'air pas mal.
Donc c'est une production internationale, hein. C'est pas que la France, oui. D'ici c'est un producteur anglais.
C'est une production européenne.
Hein. Oui, production européenne, belge, et puis bon, il y a quand même des acteurs de pas mal d'endroits. Il y a de mémoire, donc Samuel Labarthe, c'est celui qui fait le capitaine Decker, lui il est français et suisse. Suzanne Clément, celle qui joue Virginie, on va l'appeler Virginie.
Hein. Oui. Musso.
Ça fait intime. Elle est canadienne. Et oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Et vous vous souvenez de Frédéric Diefenthal?
Québécoise, tu veux dire?
Québécoise, pardon, oui.
Non.
Frédéric
Diefenthal.
Je suis trop vieux.
Non, ça ne me dit rien.
Alors ça, en fait, ça m'a fait sourire. Donc, si vous vous souvenez du film Taxi,
qui se passe j'en ai vu qu'un, moi.
Ou le premier. Eh ben, c'est celui qui faisait le policier avec. Donc il y avait Samina Seri et il y avait un policier avec lui qui était un peu goofy.
C'est des années combien?
C'est 90.
Le policier qui essayait de passer son permis de conduire?
Oui, ou qui était juste un peu.
Qui vivait avec sa mère ou je sais pas
c'est
quoi.
C'est ça.
Ouais. Vaguement. Je me souviens vaguement.
Et il est dans cette série. Et à la limite, en fait, je sais pas, peut-être que des fois.
Mais avec 30 ans de plus d'âge.
Oui, on remarque qu'il a pas l'air de.
Il a pas vieilli beaucoup.
Non, il a pas vieilli beaucoup, mais. Ce qui est assez intéressant sur des rôles comme ça, c'est que, par exemple, Frédéric Diefenthal, moi, je le trouve très bon dans Taxi. Je trouve qu'il joue ce rôle vraiment très, très bien. Et pour moi, il a vraiment cette espèce de côté comédien, mais d'humour, humoriste. Quoi. Et il se retrouve dans cette série. Et à la limite, c'est le seul point pour moi dans la série qui fait un peu tâche, c'est d'avoir Frédéric Diefenthal dans le rôle du mari de Virginie Musso, voilà. Et je sais pas, il a ce rôle dramatique et il a un rôle bien particulier dans ce film. Et limite, c'est le seul truc où je me suis dit, on n'y croit pas. Parce que moi, parce j'ai que
c'est mal, dommage. Parce que mal, ou parce que tu as l'image de Taxi dans la tête?
Parce que moi, je l'ai adoré dans Taxi et je trouvais qu'il avait vraiment le rôle parfait dans Taxi où il faisait
Donc c'est à moi de regarder parce que je ne connais pas Taxi, je n'ai jamais entendu parler.
Alors, si vous avez pas, mais l'avantage, c'est que si vous n'avez pas de connexion avec Frédéric Diefenthal, ça ne vous choquera pas, puisqu'en fait, vous n'aurez pas,
pas
cette perception. D'accord. Que voilà, pour lui, pour vous, ça doit être un acteur comique. Et des fois, ça arrive un peu. Hein,
Oui, on associe des rôles à des acteurs et après, on n'arrive plus à. C'est comme. Comment il s'appelle celui qui joue dans Les Pirates, là
Johnny Depp.
Non, mais moi, les noms, hein, la preuve. Johnny Depp, je n'arrive plus à voir un film avec lui, quoi. Tout ce que je vois, c'est Pirates. Hein, ouais.
Ouais, lui me choque pas tellement ce qu'il a
parce
fait
qu'il
quand
a fait
même.
Beaucoup de choses avant,
ouais, il a fait pas mal de trucs et puis je trouve qu'en fait, il est jamais. Il est toujours un peu
décalé,
sombre,
ouais.
Et un peu décalé. Donc non, ça me choque moins que celui qui a fait The Mask.
Ah, Peter Carey.
Ah, mais lui...
Jim Carrey,
ouais.
Et lui-même, d'ailleurs, l'a dit, hein, qu'il a souffert énormément de cette espèce de...
Rambo, Schwarzenegger, tous ces mecs-là, ils font un rôle immense. Et après, pour avis, Rambo, c'est Rambo, quoi. Bah, je l'appelle Rambo, mais c'est pas son nom. Stallone,
bah oui.
Stallone, tu peux pas t'empêcher, il fait n'importe quel film, t'as l'impression que c'est encore Rambo. Bah, soit c'est Rambo, soit c'est Rocky. Il a fait deux
films.
Rocky,
mais moi c'est plus Rocky.
Mythique,
ouais,
c'est,
ouais.
Tu vois sa tête, tu dis il va soit boxer, soit il va tirer dans tout le monde.
C'est
l'un
c'est
ou
vrai.
L'autre. Et Schwarzenegger, tu dis bah c'est Terminator, c'est bon. Bah, enfin bon, il y a des.
Là, ils
y a
sont
des
victimes
qui,
de leur succès. Dans un,
mais Schwarzenegger,
dans un
il a joué dans beaucoup d'autres films.
Oui, bah oui, mais
ah bon
pas des films d'action, mais des Schwarzenegger,
ah bon
Terminator 1, 2, 3, 4.
Non, mais par exemple, il a fait quand même pas mal de comédies après. Hein. Il a fait Twin, il a fait... Il a fait cette espèce de truc, là, il y avait...
Non, mais c'est lui qui avait fait le premier Total Recall, qui a
oui.
eu un très
ah,
bon
oui, c'est
succès
vrai. Ah, mais oui, c'est
dans
vrai.
Les années 80. Il a fait beaucoup de science-fiction, de bagarres et trucs, films policiers des années 80-90.
Mais bon, Schwarzenegger, le truc, c'était un bodybuilder professionnel d'origine, donc...
Bah, Conan, c'est lui qui a fait Conan.
Donc tout ce qu'il a fait après
les années 80. C'est comme ça qu'il a été découvert son premier gros film.
Oui, oui, c'était avant, bien avant.
Conan le barbare.
C'était Monsieur Muscle, donc il est resté dans ce rôle de Monsieur Muscle toute sa vie finalement, parce que c'est même en faisant de la politique.
Même en faisant de la politique ou.
Ça reste quand même Monsieur Muscle, oui.
Conan le barbare.
Donc bref, donc je recommande.
Oui. La forêt.
Ça t'a plu?
Moi ça m'a plu. Je trouvais que
4 sur 5 étoiles. C'est sur 10 ou sur 5? Tu fais quoi comme note?
Ah là, moi je ferais sur du 10.
Sur
ça me donne plus
étoiles.
De flexibilité. Je dirais c'est du 7,5-8 là. Hein.
7,5, ah c'est 8. Pas mal. Hein.
Ouais c'est pas mal.
Donc,
il y a pas
bon
mal de
scénar. Bon bien et c'est bien filmé. Les Ardennes c'est joli. Bah c'est un peu glauque et.
Alors justement donc pas mal de substance c'est ce que je dis. Donc 5-6 histoires en même temps ce qui est très bien. Très beau décor. Beaucoup de forêt. Elle est très présente. Il y a un petit peu de surnaturel, mais enfin, c'est vraiment gentillet et plus dans le sens romantique que du
truc psycho. Ouais.
Oui, oui, des trucs complètement irréels. Bon jeu d'acteur. Je disais, à part Frédéric Diefenthal qui fait un peu tâche, je trouve que globalement, ça se passe très bien. Donc, c'est une bonne série sur un week-end. Regardez et ça vous garde en haleine. C'est consistant et c'est court.
Cool.
Oui, c'est ça, sur un week-end, deux épisodes par soir.
Oui,
c'est
pour ça que je fais
vendredi,
attention,
samedi,
parce que
dimanche,
six épisodes, c'est bon. Et même si on fait
un week-end d'hiver, ça le fait.
Même si on se drogue à la série The Forest, six épisodes à 50 minutes, on ne va pas mourir. C'est,
non, non, ça
on
va.
On est couché tard,
va.
Mais ce n'est pas trop de. Pas
et
trop.
Donc, je vous parlerai d'une autre série la prochaine fois que je suis en train de regarder en ce moment qui s'appelle La Trêve.
Ah! Justement, je l'avais vu aussi, je me demandais. Si
La Trêve, The Break.
Bon, ben, j'attends ta critique.
C'est français aussi, ou francophone?
La Trêve, oui, oui.
Franco-belge.
D'accord.
Bon, là, il y a plus d'épisodes. J'ai épisode 8 de mémoire, il y en a 10 ou 11.
D'accord.
Donc,
on en parlera une prochaine fois.
Ouais.
Pour parler liaison musique-film, Carimouche, je ne connais pas la jeune dame, Carimouche, mais sa chanson s'appelle Action. C'est assez politique, il faut bien écouter. J'aime, c'est assez, la musique est rigolote.
Tu as découvert ça?
Ouais, ouais. Aujourd'hui, grâce à Monsieur Apple Music. Mais je vous dis
Carimouche.
Carimouche. Voilà. Et ça s'appelle Action, la chanson. On passe ça dans 2 secondes.
Le réveil seul, tu resterais bien au lit. T'avais rêvé d'une vie, mais sûrement pas celle-ci. D'aller te pointer, te chômer ou te faire exploiter. Mais t'es comme tout le monde, t'as tes factures à payer. Pris dans le train sans connaître la cause, t'as renoncé, t'es blasé, tu te contentes du morose. Pourtant tu le sais pas, mais tu tournes dans un film. Le plus beau, le plus grand, le meilleur des castings. Tu sors chez toi, t'es filmé, au parking t'es filmé. Dans le métro t'es filmé, au boulot t'es filmé. Au resto t'es filmé, à la banque t'es filmé. Sur la route t'es flashé, partout t'es filmé. Sur le net tes pieds copiés imités. Et quoi qu'il arrive t'es engagé filmé. Alors souris, ça sert à rien d'avoir peur. Il est temps de libérer tes talents d'acteur.
Action, ça tourne en boucle, plus besoin de fiction. Vision panoramique, super production. C'est toi le héros, c'est toi l'attraction. Action, silence, plateau, ça tourne moteur. On braque sur toi les projecteurs. Voici enfin venu ton heure.
Pour le synopsis, tu as quelques doutes? T'inquiète, il suffit de consulter ton Facebook. Quoi? T'as peur de mettre à la hauteur? C'est du beurre, dialoguiste s'appelle Twitter. Pour ce qui est du décor, te prends pas la tête. Il couvre presque toute la planète. En revanche, il y a du taf au montage. Le réel veut de l'action, des arrêts sur image. On va falloir se lâcher, être sauvage, être intense. On retiendra surtout les scènes de violence. Pas de chichi, pas d'ennui, du ralenti, de l'arty. Les plans larges, on oublie, on veut de la vraie vie. Il y aura du sexe, du sang, des jeux de pouvoir. Tout ce que tu n'as jamais rêvé de voir. Alors rentre dans ta peau d'acteur studio. Incarne ton héros, ça tourne magnéto.
Action, ça tourne en boucle, plus besoin de fiction. Vision panoramique, super production. C'est toi le héros, c'est toi l'attraction. Action, silence, plateau, ça tourne moteur. On braque sur toi les projecteurs. Voici enfin venu ton heure. Vision panoramique, super production. C'est toi le héros, c'est toi l'attraction. Action, silence, plateau, ça tourne moteur. On braque sur toi les projecteurs. Voici enfin venu ton heure. Action, ça tourne en boucle, plus besoin de fiction. Vision panoramique, super production. C'est toi le héros, c'est toi l'attraction. Silence, plateau, ça tourne moteur. On braque sur toi les projecteurs. Voici enfin venu ton heure.
Pardon, pardon, ça, c'était abrupt, je m'en rappelais pas. Je m'en rappelais pas que c'était si abrupt.
C'était
ça s'appelle
abrupt.
Action, Carimouche, et donc un petit peu politique, mais comme vous avez
j'aime
pu
bien,
l'entendre.
J'aime bien, ça fait très clavecin.
Oui, bah, il y a un peu de ça, et en fait, ces musiques, j'ai d'autres chansons. Enfin, après, j'ai écouté d'autres de ses albums, donc c'est sur Spotify ou sur Apple Music. Apple Music, j'ai découvert ça ce midi. Ils ont bizarrement, ils ont une série française, pas une série, mais il y a un. Quand ils groupent des chansons, comment on appelle ça?
Compilation.
Une compilation française qui s'appelle. J'essaie d'ouvrir mon iTunes et il veut pas. Il est pas content mon iTunes. Alors pourquoi il s'ouvre pas mon iTunes? Eh ben c'est pas grave, une autre fois. Allez sur la compile qui est en ce moment sur iTunes, qui est une compile française. Je crois que c'est la pop. La pop mange, la pop a faim, ou c'est un allusion à la bouffe française et à la pop.
D'accord.
Mais c'est une compilation Apple, donc sur les musiques francophones. Voilà.
Mais je suis sur Spotify.
On parlait d'autres choses, on parlait de féminisme et de choses. Mais pour parler juste 10 minutes de Calvi, donc je suis allé à Calvi. Vous connaissez les filles, Calvi, la Corse?
Je suis allé qu'à Ajaccio, moi.
Ah, je suis jamais allé en Corse, j'en rêve.
J'étais jamais allé en Corse, donc on s'était dit on va se taper une île sur le retour, sur la dernière semaine de nos 6 semaines en France. On va se taper une semaine de vacances. Allez, entre la Sardaigne et la Sicile ou la Corse. Puis j'ai dit.
Oh, et Malte
non, pas Malte, je m'en fous. Non, mais je m'en fous pas, mais c'est joli, Malte.
Îles,
mais,
bah oui, c'est joli.
Et il y a plein d'autres îles. Il y a Ibiza, il y a machin, côté espagnol. Mais je me suis dit, tiens. J'allais partir pour côté Sicile à cause des volcans, beaucoup de choses, la bouffe italienne. Et puis au dernier moment, je me suis dit, allez, personne ne connaît la Corse dans ma famille, on n'y est jamais allé, ni les grands-parents, ni les parents, ni les petits-enfants. C'est quand même une île, c'est l'île le surnom c'est l'île de beauté.
Allez,
j'ai des copains qui y vont depuis 30 ans. Allez, et puis j'ai commencé par Facebook, j'ai dit à des copains qui y vont souvent. Alors j'ai quand même deux enfants. une en bas âge à 6 ans, les grands-parents 80 et des brouettes. Donc on est un peu à la merci du on peut pas faire la grimpette. Je savais Bonifacio, Portovecchio, c'était pas la, on peut pas faire le G20, on va pas monter les 2000, les 3700 mètres d'altitude des petites montagnes ou 2800 mètres. Donc j'ai dit on va pas faire les montagnes. On est là que 7 jours, je vais essayer de pas louer de voiture, ou donc on va faire côté plage et puis côté découverte. Et j'ai dit, j'ai regardé un petit peu, est-ce que Calvi c'est bien, et parce que j'ai vu qu'il y avait un petit train à Calvi, il y a un aéroport, il y a un petit train qui dessert la Balagne c'est la région. Et puis il y a un côté historique, il y a un château fort, il y a une citadelle, et puis il y a la Légion française à Calvi. Donc il y a de l'histoire. Et mon copain m'a dit, Emmanuel, tu ne m'écoutes pas, mais bonjour Emmanuel. Il me dit, Calvi, t'as pas fait le mauvais choix parce que la ville est mignonne, la plage est super, le petit train peut t'emmener sur 7 ou 10 différentes plages. C'est pas cher, c'est 2 euros pour aller un peu partout. Le plus cher, c'est 6 euros pour aller jusqu'à l'île Rousse, qu'on a fait. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Donc, on choisit Calvi parce qu'il y a un aéroport. Et Calvi aussi est desservi par plusieurs. Il y a 4 aéroports en Corse, je ne savais pas. Donc il y a Ajaccio qui est le plus gros, mais Calvi doit être le 3e plus gros. Donc c'est ou le 3e plus petit, comme deuxième plus petit, comme vous voulez. Mais il y a quand même des desserts assez souvent de d'Orly, et puis aussi Nice et d'autres villes en France et en Europe, en Italie, etc. Donc Calvi, de grosses découvertes pour moi. C'est vrai qu'il y a une très très belle baie, la baie de Calvi, donc une belle plage de sable avec quelques galets, quelques cailloux, mais pas beaucoup. La mairie de Calvi a fait bien les choses. Ils ont fait des barrages de, vous savez, ils mettent des grosses pierres, donc ça casse les vagues. Il y a pas beaucoup de vagues quand même, mais ça casse les vagues. Un peu de vent, tout le monde nous a. Donc Calvi, c'est, si vous voyez géographiquement la Corse, c'est donc il y a le petit doigt qui pointe, c'est sur le côté gauche du doigt, donc ça c'est face, c'est face à Mariès, c'est au nord-ouest de l'île, et donc ça fait face à la France. C'est la ville la plus proche de la France en fait, puisque le doigt va vers un peu l'Italie, alors que Calvi ça va vers Nice, Marseille. Voilà. Donc Calvi c'est sympa. Donc facile d'accès, il y a aussi le ferry qui vient, je crois, oui, il y a des ferries, Toulon, Marseille peut-être, ouais. Donc plusieurs ferries qui viennent d'un peu partout de France et d'ailleurs, donc comme j'ai dit, un aéroport, et il y a ce petit train qui s'appelle la Balagne, et donc c'est entre Calvi et Île Rousse, il y a une dizaine de stops, c'est un tout petit train, il n'y a que deux wagons. Qui marche au diesel, bon, c'est juste un aparté. Et donc c'est assez sympa. Donc on y va, on loue pas de voiture. Et au départ, quand j'ai regardé en avril, je pouvais trouver soit des campings, soit des hôtels, soit des Airbnb. J'avais regardé un peu tout pour la semaine. Et mais en fait, quand j'ai réservé le 10 mai, j'avais pas compris qu'en France, le 1er mai et le 8 mai, c'est jour férié. Donc, tout le monde va en ligne pour réserver ses vacances.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, entre le 28 avril, quand j'avais commencé à regarder, il y avait plein de places partout. Airbnb, c'était libre. Les campings, c'était libre. Les hôtels, c'était libre. Et le 10 mai, quand je fais moving, plus rien pour sur 7 jours. Ce que je ne savais pas aussi, c'est que la première et deuxième semaine de juillet en Corse, surtout à Calvi, il y a concert de jazz, après il y a concert de boom boom, comment ça s'appelle, la musique qui fait boom boom.
Techno
pendant 5 jours.
Je suis tellement vieux. J'étais entre techno et boom boom africain. Moi,
j'étais là, la batterie.
Mais t'as pris le ferry de Marseille?
Non, j'ai pris l'avion d'Orly, puisque moi je suis normand. Donc j'étais en Normandie pendant 4 semaines et demie. Et puis donc je suis.
Et t'as atterri où?
Orly, Calvi.
Il y a l'aéroport et tout.
C'est l'un des 4 aéroports, c'est Calvi.
C'est pas mal.
Donc c'est bien desservi par les bateaux et par le. Et par le, qu'est-ce que je disais, et par l'avion. Donc pour côté si vous voulez venir de France, c'est facile.
Combien l'avion?
Je me rappelle plus, mais il y a des petits prix, ça dépend hors saison. Puis je suis passé par Corsair, mais il y a Air France, il y a des alliances machin.
Et t'y allais à quelle saison toi?
Air Corsica. Donc moi j'y suis allé du 7 juillet au au 14 juillet.
Ah bah si, en pleine saison quand
voilà.
même.
Bah, pleine saison, sans être pleine, en fait, c'est pas super plein. C'était plein parce qu'il y a ces 5 jours de concerts pop, ouais. Techno, du 5 juillet au 10 juillet.
Tes mais parents, après, tes parents qui ont 80 ans, ils ont aimé la
oui,
le concert techno.
Oui, ils ont aimé beaucoup. Il bon, y a une citadelle, la musique techno, non, parce qu'on l'entend un peu forte. Les trois premières nuits, oui, on a entendu la musique est partout. Et puis après, c'était la Coupe du Monde de rugby.
Deux, trois assises.
Et on est là pendant la demi-finale et la finale. C'était sympa, il y avait de l'ambiance, mais en même temps, il y avait de l'ambiance. Non, c'était très sympa de voir la demi-finale à Calvi. Donc les gens mais comme la France est pas super fouteux, les gens se couchent à minuit quand même, donc ils font du bruit jusqu'à midi, minuit ils font bip bip machin. Bah en Corse, hein, à Paris c'est petit pas pareil.
Oui, j'allais dire. Oui.
Mais les gens, les Français sont pas super foot, ils aiment le foot quand on gagne, mais sinon ils s'en foutent du foot. Et qu'est-ce que je veux dire, donc non, c'était assez sympa. Mais donc ce qui m'a plu à Calvi, puisqu'on a plus que 5 minutes. La plage, très bien, grosse baie. Le petit train, très bien. On est allé voir l'île Rousse, donc on a payé nos 6 euros. On est allé jusqu'à la fin, l'île Rousse. Petite ville historique aussi, avec le ferry qui arrive aussi là. C'est très mignon. Il y a des marchands, il y a un marché couvert, des petites rues sympathiques. Super bien.
C'est Calvi. Pittoresque, non ?
Oui, pittoresque, mais c'est sec, hein, c'est le côté sec de la Corse. Il pleut que, je crois, 50 jours sur les 365 jours.
Ah, la belle vie.
Donc il a plu zéro fois en. Il a plu zéro. Bah si, il a plu le jour de notre arrivée. C'est la première fois en 50 ans qu'il a plu en juillet.
Bon, je déménage en Corse.
Nous, on dit, on est normand, donc là où on arrive, il va pleuvoir. Mais c'est normal. Donc il a plu à Calvi le jour de notre arrivée. Uh-huh. En fait, il y a eu une tempête. Oui, 4 minutes. Donc, aller à Calvi pour la plage, c'est très sympa pour les enfants. C'est une grande baie, donc ça descend doucement. Donc, les enfants ont pied partout. Aller pour à Calvi parce que le port est très sympa. C'est l'un des plus grands, c'est le plus grand port de plaisance de la Corse. J'ai appris ça. C'est petit hein, par rapport à Auckland. J'ai rigolé. J'ai fait venez à Auckland, vous allez voir les ports de plaisance ici. Il y en a 40 et ils sont tous beaucoup plus gros. Mais pour la Corse, c'était mignon. Côté historique, la citadelle, donc 1600 et des brouettes. Napoléon a couché quand c'était la révolution.
Oui, mais oui, Napoléon.
Il est pas né là, hein, mais il y a couché.
Non, mais oui.
Alors la grosse histoire, le débat, Monsieur Christophe Colomb serait génois. Pendant 4 siècles, Calvi était génois. Donc Christophe Colomb serait peut-être né là. C'est débattu. J'ai fait des îles, j'ai fait Kvar en Croatie il y a 2 ans. Et Kvar disait que Christophe Colomb est né à Kvar. Mmh. Bon, il s'avère que le royaume génois, un peu comme les Florentins, avait la main mise sur quelques îles de la Méditerranée. Donc il se peut que Monsieur Christophe Colomb, étant génois, il se peut qu'il soit né sur n'importe quelle des îles génoises. Gênes, c'est pas sur une île, c'est sur la terre en Italie. Mais enfin bon, c'est juste en face de la Corse. Donc c'est possible. Mais bon, c'est rigolo. Et puis quoi d'autre? Donc, et oui, il y avait des Romains, donc il y a 2000 ans, mais il n'y a plus de vestiges romains. Hein, donc voilà, Calvi était déjà côté historique. Côté citadelle, c'est sympa, ça monte, c'est un peu sur un rocher. Donc il y a un peu d'histoire, un joli port, beaucoup de restos. Donc c'est assez grand et assez petit, il y a de la place pour tout le monde. Si vous prenez le petit train, il y a au moins 3 ou 4, même au mois de juillet. Au mois d'août, c'est la folie, hein, on m'a dit, hein, quand même. C'est le gros tourisme, hein, Calvi, pour la Corse. En juillet, on a encore des plages. Toute petite, sur le petit train, sur la Baliagne. On fait 5 carrés pour 3 euros et on a une plage à. On est 10 dessus.
Très
c'est
bien.
Pas mal quand même. Hein. Pour la France, c'est bien. Hein. Pour l'Europe.
C'est des plages de sable ou c'est des plages de.
Les deux.
Oui, il y a les deux.
Donc, ce sont des très beaux rochers de toutes les couleurs. C'est beaucoup de. C'est très marbré à la Corse. Donc, les petits cailloux d'ailleurs qui viennent sur la plage, c'est du rose, du vert. C'est très joli. On a envie de les ramasser toutes les 2 minutes. Puis après, on se rappelle, on ne peut pas ramener de cailloux en Nouvelle-Zélande. Donc, on les remet par terre. Malheureusement. Non, c'est
on
assez
peut pas
joli.
Ramener de cailloux.
Bah non, parce qu'on est censé pas ramener de terre de nulle part.
Bio,
en Nouvelle-Zélande.
C'est quoi, bio.
Oui, le bio, sécurité. La biosécurité.
Donc pas de coquillages.
Voilà, pas de coquillages, rien du tout, pas de bout de bois, rien. Mais c'est pas grave. Donc Calvi, mignon, il y a des choses à faire, il y a des très bons restaurants, des beaux hôtels. Et donc, on est. Alors, je voulais finir. Nos accommodations, en fait, on a eu raison et c'était très bien. On a fait 6 jours dans 2 campings. 3 jours, 3 jours, et 2 jours en hôtel. L'hôtel, c'était à côté de la citadelle, qui est en haut. Les campings, il y en avait un, c'était sur la Pinette, donc c'est dans la grande baie sur la plage. Et l'autre, c'était un camping un peu plus en ville. Et en fait, les trois, ça fait voir... Si on n'a pas de voiture, surtout, je vous conseille de faire ça, en fait. C'était un bien pour un mal, parce que ça nous a fait voir et vivre Calvi sous différents aspects, le côté plage, le côté ville, côté citadelle. Et c'était très bien. Très recommandé, la Corse est sympa et il y a beaucoup d'autres choses à faire en plus.
Super. Voilà.
On se passe une musique de fin ou pas du tout? Oui,
mais
non,
je crois que
non,
on a juste le temps de se dire juste au revoir.
Merci Virginie et ton sujet Netflix.
Soignez-vous.
Et ton sujet. Merci.